Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans l'émission Les Faramineux. Alors aujourd'hui, aujourd'hui c'est Poussa Divani qui est avec nous pour sa chronique. Elle nous présente son coup de cœur, qui est Josée Leblanc, fondatrice, propriétaire et directrice générale de l'hôtel boutique Atticus à Sept-Îles. Elle va nous en parler dans un instant. Ensuite, on aura la présentation de la saison 2022 de ProMusica avec la directrice artistique Irina Krosnianskaya, que je prononce son nom comme il faut, je vais m'entraîner pour lui parler tout à l'heure. Et en deuxième partie d'émission, on recevra l'écrivain, historien, journaliste québécois Mario Pelletier qui nous présente son dernier roman, La pierre de Satan. Alors pas tout de suite, on part en musique avec La Bronze qui nous chante Briller.
Je veux briller. Je me lève de mes rêves dans le miroir. C'est moi ou pas? C'est mon reflet, pas tout à fait. C'est mon regard. Je veux briller comme les étoiles à la télé. Je veux briller comme tous les beaux pas maquillés. Je veux briller comme les étoiles à la télé. Je veux briller. Je veux briller le feu. Brûler, je veux pour mieux m'évaporer. On va briller. Je veux briller le feu. Brûler, je veux pour mieux m'évaporer. On va briller.
La vérité, j'ai existé dans tous mes yeux. Sous tous les feux, c'était parfait. J'étais en fait moi.
Je veux briller comme les étoiles à la télé. Je veux briller comme tous les beaux pas maquillés. Je veux briller comme les étoiles à la télé. Je veux briller. Je veux briller.
Briller, je veux, moi aussi je veux briller avec mes invités Poussadi, Josée Leblanc. Bonjour à vous deux.
Allô Arlette.
Alors Josée Leblanc, on a la chance de vous avoir en ligne grâce à Poussadi parce qu'elle m'a téléphoné en me disant je viens d'avoir un coup de cœur extraordinaire, faut recevoir Josée. Alors je vais la laisser te présenter Josée, puis après on parle ensemble.
Oui, ben écoute, je suis à Sept-Îles présentement. J'accompagne Joséphine à travers une conférence. Et puis là, on est allé visiter cette boutique parce que Joséphine Bacon, elle m'a dit, écoute, ça dit, il faut absolument qu'on aille acheter de l'artisanat et des choses comme ça pour Noël. Et quand on est rentré là, je suis tombée, j'ai dit, écoute, Joséphine, je capote ma vie. Tu comprends pas, je capote ma vie. Tous les produits qu'il y avait là, je l'ai mis comme folle. Et puis là, Josée, elle a vu Joséphine, elle était super contente, elles se connaissent. Donc, Josée a dit, écoute, viens voir mon atelier. Et moi, j'ai suivi et j'ai écouté, j'ai regardé. Et quand Josée a commencé à expliquer ses bas de l'espoir, là, mon cœur a fondu. Et là, je t'ai appelée après. Là, j'ai dit, non, tu comprends pas, Arlette, là. Faut vraiment qu'on l'ait à la radio.
D'accord.
Alors, eh ben, voilà.
En tout cas,
je laisse la suite.
Merci.
À Josée.
Merci du cadeau, Poussadi. Merci beaucoup du cadeau. Donc, Josée, explique, on va parler, il y a tellement de choses à parler autour de toi, sauf que là, avec le temps qui nous reste, on va parler de ce qui a été compté comme le produit autochtone de l'année, ce sont les bottes de l'espoir. Alors, qu'est-ce que c'est? Raconte-nous cette histoire.
Ben, en fait, on a gagné un prix pour l'entreprise autochtone de l'année. Et notre produit à nous, c'est les bottes de l'espoir. C'est vraiment notre bébé. Et ces bottes-là, ben, ils sont perlés, ils racontent une histoire, toutes les premières grandes rencontres qui ont eu lieu tout le long du fleuve Saint-Laurent. Ça a été fait avec des anthropologues très connus, dont Sylvie Vincent, de Rémi Savard, Denis Delage. Et on a transposé ça sur nos bottes. Et les perlages, eux, sont effectués par des femmes qui sont en besoin, des femmes autochtones dans le besoin, soit à la maison chez Doris au centre-ville de Montréal, ils sont très actifs dans ce projet-là, et d'autres organismes. Et on paie ces femmes-là un salaire équitable. Ensuite, ils nous retournent le perlage dans notre petite communauté à Ouachat, et nous, on monte les bottes au goût de la personne parce que c'est personnalisé. Donc, la personne qui reçoit ses bottes a aussi un mot de la perleuse pour la remercier de l'avoir aidée dans un moment de sa vie où on en avait besoin.
Et c'est très beau, cette histoire, en fait. Non, mais c'est vraiment très beau. Et tu es toujours à cette île ou tu as aussi un magasin à Québec?
Oui, on a aussi une boutique à quelques pas du Château Frontenac qu'on a ouvert juste avant la pandémie. Mais là, on vient de refermer avec tout ce qui se passe présentement. On va réouvrir au début de l'été si on est chanceux puis que la pandémie nous donne un petit peu de répit.
Alors d'abord, acheter ces bottes, c'est un cadeau merveilleux parce qu'elles sont vraiment spéciales. Ouais. Et après, c'est aussi un geste qu'on fait pour des femmes dans le besoin. Et ça, c'est presque aussi important. Donc, c'est très intéressant à faire. Pourquoi ça s'appelle l'hôtel boutique? C'est aussi un hôtel?
Oui, on a des chambres. On a des chambres d'hôtel. C'est tout des petits appartements avec cuisinette. Les gens, quand ils viennent, ben ils peuvent faire une immersion complète. Ils habitent avec nous dans la communauté. Ils peuvent venir à l'intérieur de l'atelier créer leurs propres produits parce qu'on fait aussi des mitaines, des chapeaux, des sacs à main. On fait toutes sortes d'autres choses, mais les bottes de l'espoir, c'est notre produit fétiche. Donc, les gens adore ce produit-là, puis ils viennent vraiment pour comprendre, parce que quand ils reçoivent leurs bottes, ben oui, il y a une utilité derrière ça, mais il y a aussi toute l'histoire qu'elles peuvent raconter, puis le nom de la personne qui les a fabriquées, ou de où cette personne-là venait. Donc, il y a toute une histoire à raconter autour de ces bottes-là.
Et je voudrais bien m'en faire compter une fois.
Oui. On a, par exemple, la botte qu'on appelle l'accueilleuse, qui est toute brodée de fleurs et de petits fruits. Puis cette botte-là, ben, ça raconte comment les petits fruits et les herbes ont aidé notre peuple à passer à travers les millénaires, puis qui ont contribué à notre survie, en fait, dans le Nord. Comment on se nourrissait autrefois. Donc, c'est un peu cette histoire, c'est cette histoire-là qu'on raconte à travers cette botte-là. Mais on a aussi la première rencontre entre les Inuits et les Vikings. Pour le poisson. Ouais. Donc, on a aussi un perlage là-dessus. Il y a différentes histoires. Et puis, ça nous fait plaisir de les raconter. Puis, on espère pouvoir faire voyager notre histoire de cette façon-là avec ce que nous, on fait.
Et c'est une sacrée belle idée. Et d'où tu viens, toi?
Moi, je viens d'ici. Je viens du Ouachat. C'est une petite communauté qui est annexée à la ville de Sept-Îles.
D'accord. Et quelle...
Elle est belle comme un cœur, en plus, cette femme.
Ah bon, bah alors, tu fais bien de me le dire, parce que moi, je ne la vois pas. Je ne la vois pas. Quelle merveille. Racontez-moi un petit peu, parce que je veux en savoir plus sur cet endroit. Toutes les merveilles, et tu peux y aller aussi, Poussadi, pour en parler, de toutes les merveilles qu'il y a là-dedans, pour tous ceux qui voyagent, qui iront jusqu'à cette île, ou bien qui y sont, et voilà.
Ah, c'est vraiment un incontournable. Écoute, tous les produits qu'il y a là, c'est fait avec goût, mais il y a une sensibilité que tu rentres là. Premièrement, tu es accueilli, mais la place, c'est bondé de choses tellement... mon Dieu, je pouvais pas m'arrêter, là. Je suis retournée aujourd'hui, puis écoute, c'est comme... j'avais l'air de me droguer, là. Comme au secours, là. Arrêtez là quelqu'un, tu sais. Mais non, mais... Les mitaines, les boucles d'oreilles, les mocassins... Ah, tout est fantastique. Non, puis tous les artisans qui derrière aussi tout ça, là. Je veux dire, ils avaient l'air heureux, on les a vus, puis ils m'ont dit, ça veut dire que t'es un bon patron, là. Quand tout va bien, puis que t'as une super belle énergie de la place quand tu rentres là. Mais écoute, oublie ça, là, je m'achète des actions, là. Ça n'a pas de bon sens.
Non, mais oui? Je pense que ce qui touche les gens, puis surtout depuis la pandémie, c'est que nous ici, c'est super important. On a une grande sensibilité pour essayer de faire en sorte que tous nos produits soient le plus authentiques possible. On essaie que d'utiliser des produits naturels, des matériaux bruts. Je pense que c'est ça qui vient chercher vraiment les gens. Quand tu rentres, ils disent waouh, tu sais, on a plein de vrais arbres à l'intérieur. On est comme, on essaie vraiment de garder ce côté de proximité avec la nature qu'on avait, mais qu'on a encore, mais qu'on avait beaucoup plus autrefois, oui, mais qu'on a encore vrai. Aujourd'hui, qu'on essaie de sauvegarder. Donc,
Mais c'est vrai qu'on sent le respect des matériaux. C'est la façon dont c'est confectionné et comme tu dis, avec juste le décor aussi, on sent vraiment tout ça. Alors, c'est vraiment à visiter si vous êtes de passage ici à cette île, mais surtout aller sur le site, là, mon Dieu Seigneur.
Alors, le nom du site?
Jodie, te laisse.
C'est atigouche.com. Ça s'appelle atikuss.com. Ça va nous faire plaisir de vous confectionner des choses sur mesure pour vous.
Mais oui, puis en plus, de savoir qu'il y a, il y a un petit hôtel, enfin, il y a quelques chambres aussi pour être l'endroit. Je ne savais pas, je croyais que c'était que la boutique. Parce que Poussadi a failli à son devoir, elle m'a parlé que de la boutique.
Mais
c'est
toi, Valérie.
En fait, il y a l'hôtel, la boutique et l'atelier. Donc, puis à partir de l'année prochaine, là, on vient de tout finir, de finaliser notre financement pour réaliser le premier économiseur autochtone. Et on va entrer en construction au début du printemps. Puis on va pouvoir voir à ce moment-là tous les artistes à la même étage. L'atelier et la boutique vont devenir à la même étage. Ça fait que ça va être encore plus intéressant comme expérience pour la clientèle. Oui, oui, exactement.
Il y en a combien qui travaillent dans l'atelier?
Présentement, on est 9. Parce qu'on est restreint dans l'espace. Pourquoi on a grandi? Puis on devrait doubler d'employés suite aux modifications qu'on va faire.
Le double? Waouh! Ça va être chouette à visiter, ça.
Oui, vraiment, je vous invite à visiter. Puis on va tout apprendre l'histoire du mocassin d'hier à aujourd'hui via une technologie sur les téléphones. On va entendre toute l'histoire dans la langue hindoue, dans la langue française et dans la langue anglaise. Donc, au choix. Et c'est ça, on est bien excités, puis on espère que quand les gens vont sortir d'ici, ils vont se dire « waouh, j'ai envie d'en savoir davantage sur les Autochtones ». Donc, c'est ça notre mission à nous, puis de continuer à aider toutes ces femmes-là qu'on a réussi à aider jusqu'à présent aussi.
Ah oui, ça c'est une belle, c'est un beau devoir, en tout cas, à faire. Il faut le dire.
C'est vraiment une mission d'espoir, hein, puis ça porte bien son nom, là. On n'aurait pas dit mieux, là.
Oui. Ben on leur souhaite en tout cas le meilleur parce qu'elles ont besoin d'aide. C'est des aides pour financières pour la maison, pour se vêtir, pour vivre, pour survivre.
En fait, c'est vraiment les besoins de base. C'est vraiment, des vêtements, un premier appartement, une épicerie, c'est vraiment des besoins de base.
Oh là là, mon Dieu.
Ben,
merci en tout cas, ça donne deux fois plus envie d'y aller et puis de voir ces merveilleux cadeaux à faire. Ça dit, j'espère que tu m'en as ramené 10.
Oui.
Bon, ben, sur ce.
J'espère que vous l'avez poigné dans votre échange de cadeaux.
Alors en tout cas, merci beaucoup parce que ce qu'on fera, José, c'est qu'on va dans l'année prochaine, on vous réinvitera, parce qu'on va parler de ton histoire à toi, de comment ça s'est passé, comment ça a commencé, etc. On n'a pas le temps là aujourd'hui, et puis de tout ce qui se fait, on en parlera plus en détail. Mais c'était déjà un beau geste d'être venu nous voir et merci beaucoup Poussadi pour ton cadeau de Noël.
Ben, merci.
Voilà.
Ça m'a fait grandement plaisir.
Alors, on vous souhaite le meilleur. Merci, au revoir.
Bye bye, à bientôt.
Au revoir.
Alors, on est avec Irina Konstantskaya. Je m'excuse pour la prononciation, Irina.
Oui, bonjour.
Bonjour. C'est parce que c'est difficile dans ma bouche. Il y a un an avec trop de consonnes. Bonjour Irina, donc on s'est vu un petit peu ce matin dans la présentation de la saison 2022 de ProMusica, dont vous êtes la directrice artistique.
Depuis 2018, oui.
Depuis 2018, et il va y avoir des choses alors absolument magnifiques, ça va être des concerts, et en plus, en sachant aujourd'hui que non seulement on va avoir le plaisir de retourner en salle, mais quoi qu'il se passe, je dis bien quoi qu'il se passe parce qu'on ne sait jamais aussi, hein, on va quand même pouvoir le regarder sur le web. Il va quand même y avoir
absolument.
Le volet web. Alors, quelles sont les propositions, les thématiques de la... Je veux juste finir avec les thématiques de la chanson, c'est le merveilleux voyage. Et un voyage musical de partout, ça va être du bonheur. On vous écoute.
Merci pour cette belle présentation. Effectivement, on a choisi comme la thématique de notre saison, cette année, le merveilleux voyage. Voyage en musique, le plus sécuritaire de tous les voyages actuellement.
Oui, mais on fait quand même un voyage parce qu'on en a tellement besoin. Même de cette manière, ça va nous faire envie.
Vraiment, pour nous évader de,
oui,
du
de
quotidien.
Tout ça.
Exactement. Donc, on va entendre beaucoup de belles musiques, comme d'habitude chez ProMusica, beaucoup des grands chefs-d'œuvre, des grands classiques, mais aussi de la musique un petit peu moins connue. On a choisi de présenter dans chacun des concerts, des quatre concerts, des quatre récitals de la série Carte Blanche, on présente de la musique des compositrices comme Clara Schumann, Amy Beach, Louise Farenc.
On va aller faire un tour en Allemagne d'abord. Au mois de janvier, c'est ça?
Oui, exactement. On commence par la musique allemande avec le trio de Felix Mendelssohn et Clara Schumann. Donc, la musique romantique en toute beauté.
Et bien, après, on part en France.
Exact, avec le duo de Jonathan Crow et Philippe Chu.
C'est bien noté.
On va entendre la musique de Louise Farenc, une compositrice romantique également française, la grande sonate, l'incontournable sonate de Franck pour violon et piano. D'accord. On va continuer avec le nouveau Quatuor of Orford, qui est notre vedette de cette année pour la série Carte Blanche. Le quatuor des quatre musiciens canadiens, c'est bien voulu. On veut rester avec les musiciens locaux, avec nos grands musiciens d'ici. Donc, le nouveau quatuor Orford va jouer la musique de Dvorak. On peut dire que c'est un concert du Nouveau Monde,
oui.
La musique américaine, ou presque. Donc, le quatuor américain de Dvorak, un quintet de Amy Beach, une pièce de Jessie Montgomery, une compositrice américaine, contemporaine. Donc, plein
après,
de découvertes. Hein.
Après, on va avoir le temps d'aller voir, après février, au mois de mars, on a le temps d'aller voir sur le site ce qu'il y a. L'important, c'était
exactement,
dans les premières. Parce que j'ai entendu dans la série Mélodine, il va y avoir une création, une nouveauté.
Oui, exactement. On est très fiers de ce projet. C'est un projet ambitieux. On a décidé de créer, à la fin de notre saison, on a décidé de créer un nouveau quatuor Mélodine.
On va assister au début.
Début, exactement, les musiciens vont d'abord présenter chacun leur récital lors de la série Mélodine et après, on va les mettre ensemble pour former un quatuor. Donc, le public pourra assister à la naissance d'un nouvel ensemble de musique de la scène musicale montréalaise, comme dans un vrai laboratoire musical.
Ça va être extraordinaire. Il faut dire aussi très vite que en ce qui concerne Carte Blanche, vous changez d'endroit et ça va être pour la première fois au Centre Phi.
Oui, c'est une très belle salle, un très bel endroit qui est peut-être pas tellement habituel pour des concerts classiques, mais on trouve que l'acoustique est bonne, l'ambiance est magnifique et l'emplacement au vieux centre de la ville,
C'est superbe.
C'est formidable.
C'est superbe. Donc, c'est déjà ça. Et après, Mélodine reste toujours à Place des Arts.
Oui, depuis plus de 25 ans, on est en partenariat avec la Place des Arts pour cette belle série, oui, pour présenter nos jeunes musiciens au début de leur carrière.
On a notre salle public, Claude, oui. Claude Léveillé. Donc, comment ça va se passer sur le web? Parce que donc on prend les billets sur le site de ProMusica. Faut aller voir la liste, mais comment ça va se passer pour le web? C'est-à-dire que on laisse d'abord l'avance à ceux qui sont en spectacle, ceux qui vont voir dans les salles, ils viennent dans les salles, et puis après pour ceux qui n'auront pas pu se déplacer, quelques semaines après, ça sera accessible.
Quelques semaines après, je ne pense pas que les dates exactes sont déjà déterminées, mais ça va être déterminé très bientôt. Le même concert va être présenté sur le web, oui, pour ceux qui peuvent pas se déplacer,
voilà,
ou ils choisissent tout simplement de rester chez eux en confort de leur maison pour écouter le concert complet.
Oui, il y a ça aussi. C'est toujours mieux quand on peut y aller, d'y aller en salle, parce que c'est tellement important de se retrouver après tout ce qui s'est passé. Mais c'est vrai que si on n'en a pas la possibilité, bah, le web reste une opportunité excellente aussi. Voilà, il faut le dire.
L'année passée, on a eu la production de qualité exceptionnelle. Oui. Et on espère d'avoir la même cette année.
La même chose, plus, il faut toujours demander plus.
C'est ça, exactement.
Malheureusement, on n'a pas plus de temps à vous consacrer, Irina, mais c'était déjà bien de vous avoir entendu.
Et puis, merci pour cette invitation.
Merci beaucoup pour la présentation. Et puis, on se retrouve soit en salle, soit à l'écoute. En tout cas, ProMusica, très belle saison 2022. Merci, Irina. Au revoir.
Merci. Au revoir.
Alors, on se quitte avec Boum Desjardins qui nous chante Paris Quévillon.
Je comptais en kilomètres, de oui et de peut-être, de Paris à Quévillon, pour un oui ou pour un non. Traverser le Saint-Laurent, marcher sur ton océan, sans jamais être sûr, pourtant l'amour, c'est plus beau quand ça dure. J'ai chanté le petit Larousse, en guise de médecine douce, laissez la clé de l'honneur, en guise de porte-bonheur, guérir ton mal et le mien, juste pour nous faire du bien, et recouvrir d'amour les pierres sur ton chemin.
nos promesses sans se soucier du reste.
Et voilà, donc maintenant, restez avec nous pour la deuxième partie de l'émission où on reçoit Mario Pelletier. Vous voulez rentrer dans une magnifique et passionnante histoire ? Eh bien, restez avec nous, on va parler de La Pierre de Satan, le dernier livre de Mario Pelletier, le dernier roman. À tout de suite.
Les Faramineux avec Arlette Fara.
Les alarmes de feu qui sonnent toute la nuit. On attend les aveux, on attend la pluie. Ça se prend pour Dieu, ça laisse mourir la vie. Ça se branle la queue, ça laisse pourrir les fruits. Qui a mis le feu? Qui a fui les lieux? C'est l'odeur du sang qui le rattrapera.
Alors, on vient d'entendre Matt Vezio qui nous chantait « Qui a mis le feu ?» Qui a mis le feu ? Mario Pelletier, bonjour Mario ! Ça
bonjour,
fait longtemps que nous nous sommes parlé.
En effet, ça fait plaisir.
Écoute, alors de donc, on va parler donc de ton roman « La pierre de Satan ».
Oui,
alors,
« La pierre de Satan ».
Laisse-moi te dire d'abord que j'ai été impressionné. Alors, on passe par les attentats du 11 septembre 2001 avec Loïc Bolduc dans ton roman, donc, qui est le personnage que l'on suit, et qui part dans une quête qui est absolument fascinante sur la trace d'un camé qui porte malheur, il faut dire ce qu'il est, il porte malheur quand même ce bijou-là. Une histoire de famille où on voyage sur 3 siècles. Mais quel chemin ! Et puis à travers tout ce que tu racontes, alors moi j'ai rencontré... Dans ce livre-là, j'ai rencontré plein de petites histoires dans l'histoire. L'histoire de la politique, l'histoire du pays. Et puis, écoute, j'ai appris plein de choses et j'ai envie de te dire, quelle culture, cher ami. Vraiment?
Merci, merci Arlette. Écoute, oui, c'est un roman un peu un roman monde, comme quelqu'un a dit. je sais pas comment dire. Moi, je le décrire, c'est difficile pour moi parce que j'en ai parlé justement il y a 2 jours avant hier dans une entrevue qu'on m'a faite. Est-ce que tu as des questions particulières, précises, parce que je pourrais évidemment partir sur
alors, les sortes de tangentes. Moi, je ne sais pas, je suis fascinée. D'abord, j'ai été très intriguée par l'histoire et je pensais avoir le cerveau qui courait après la pierre de Satan. Mais en fait, je suis partie par plein de chemins, y compris par des moments de politique d'ici que je ne connaissais même pas, que j'ai appris grâce à toi. Et puis tous ces personnages, donc Loïc dans lequel je te revoyais pour certaines choses en tout cas, et puis le personnage de Régis qui est quelqu'un d'extraordinaire, et puis Cassandre qui est une femme qu'on trouve à une certaine époque et qui est impressionnante.
Oui, la guebiche là.
Par son savoir et parce qu'elle fait peur aussi.
Oui, oui, exactement, et elle joue un grand rôle. Dans le roman, au début, en tout cas, c'est sûr qu'il y a une partie, évidemment, ça se promène beaucoup dans le temps, comme tu
oui.
sais. Mais ce qu'on m'a dit, c'est qu'on perd pas le fil, c'est qu'on reste accroché à cette histoire qui a beaucoup de rebondissements. Rebondissements dans le temps et dans l'espace, parce que ça rebondit sur 2 continents, dans 4 pays en fait, 3 siècles. C'est une pierre mystérieuse dont on veut connaître l'origine.
Alors, elle est arrivée avec. Il y a une construction. Au départ, un village qui se forme, qui est créé par quelqu'un qu'on appelle le fondateur.
Oui, exactement.
D'accord. Et c'est dans sa tombe qu'on trouve ce fameux bijou, qu'on imagine un bijou être un bijou de la famille du fondateur.
Exactement, relié au fondateur. Et
Loïc, on peut le dire, Loïc entretient une correspondance très importante avec Régis, qui est son cousin, c'est ça ?
Oui, son arrière, son cousin, en fait, son grand cousin.
Son grand cousin, et grâce à tous les papiers qu'il lui a envoyés après son décès,
oui.
Il suit la trace de ce bijou. Mais en suivant la trace de ce bijou, avec les échanges qu'on fait avec Régis, avec la vie qui s'est passée pour Loïc, et les rencontres, et puis tout ce qui s'est passé en 2001... On part dans plein de choses qui sont à la fois politiques, à la fois histoire, à la fois... Enfin, il y a tellement de choses à connaître, à rencontrer. À chaque ligne, je rencontre autre chose.
Oui, c'est comme je disais dans une entrevue, c'est aussi un livre où il y a plusieurs niveaux de lecture, si je peux dire.
Oui.
Il y a un niveau, comment dirais-je, une espèce de niveau... C'est une quête. Une enquête aussi, une enquête dans le sens que c'est ça la partie un peu thriller du roman. L'enquête, c'est d'où vient cette fameuse pierre, d'où vient-elle, quelle est-elle, ou juste,
à qui appartient-elle en vrai.
C'est ça, et on se retrouve finalement presque jusqu'à la cour de France là. Et c'est parce que cette pierre est non seulement énigmatique, mais c'est une pierre d'une grande valeur. D'un art consommé qui vient d'Europe, c'est sûr, et puis qui vient de... C'est ça qu'on découvre au départ, parce que Régis est un érudit qui connaît un peu, qui en est l'histoire, et les pierres aussi, mais de toute façon, c'est une pierre aussi qui a une jumelle en Europe, et c'est parce que cette pierre représente un personnage mythologique, Castor.
Voilà. Ça, je ne l'avais pas dit parce que je voulais faire lire le livre, mais tu fais bien de le raconter. Si tu te permets de le raconter, ça va bien.
J'aime bien le raconter. Je ne sais pas si j'en dis trop. Effectivement, c'est ça le problème quand on commence à le raconter. Des fois, j'en dis peut-être un peu trop, mais c'est sûr qu'il y a une histoire. Mais de toute façon, ça, on le sait dès le départ.
Oui, c'est vrai.
C'est une pierre qui forcément une pierre jumelle parce que c'est un camé, en fait. Parce que le camée représente les jumeaux mythologiques, un des jumeaux mythologiques, Castor et Pollux, là. Et donc, forcément, c'est le castor qui se retrouve, qu'on retrouve dans la tombe du fondateur. Donc, il y a forcément un autre camé.
Pollux qui l'attend quelque part.
Pollux,
en tout cas, il semble n'apporter en tout cas que des déboires à ses propriétaires.
Exactement, pour ce qui est de Castor, en tout cas. Pour Pollux, on ne sait pas trop.
Mais on devine quand même que de l'autre côté, c'est un peu semblable. Maintenant, comment cette histoire a germé dans ta tête? Qu'est-ce qui t'a donné le goût d'aller à la poursuite? C'est ton côté journaliste qui t'a fait ça?
Plus que ça, je dirais, parce que historien aussi.
Historien, oui, bien sûr.
Historien, journaliste, mais aussi, c'est que je voulais au départ, c'est, écoutez, j'ai déjà écrit, moi, c'est, bon, j'ai passé mon enfance dans le bas du fleuve, comme le héros Loïc. Loïc me représente en grande partie, j'ai greffé sur lui, sur ce personnage, plusieurs expériences personnelles, et surtout mon enfance dans le Bas-Saint-Laurent. Et j'ai eu la chance d'être dans une nature généreuse avec des personnages colorés autour de moi. Donc, et ça, j'ai eu l'idée dès le départ, dès la fin de l'université, d'écrire un roman sur cette enfance. Et j'avais déjà écrit un premier roman qui ne me satisfaisait pas, j'ai mis de côté. Et par la suite, j'ai écrit, publié en 1994, un essai autobiographique qui s'appelle « La traversée des illusions ». Et qui circonscrit un peu l'univers romanesque qui allait être celui de la pierre. Et donc, c'est un projet de très longue haleine, ce roman.
En tout cas, c'est une réussite.
L'aboutissement, c'est
Excuse-moi de te dire ça, mais c'est...
De quelque chose que je porte depuis très longtemps. Et j'avais hâte, enfin, de m'y mettre, et je m'y suis mis vraiment en 2017, après avoir écrit deux romans, co-écrit deux romans avec Pauline Michel. Il y a un autre roman un roman historique qui se passe à l'époque de la Révolution russe. Et donc là, à partir de 2017, je m'y suis mis vraiment, j'ai plongé dedans et bon, je suis arrivé à l'écrire et j'ai trouvé de justesse un éditeur au printemps parce que j'avais pas fini tout à fait complètement. Je mettais les dernières lignes en avril et c'était le temps parce que je voulais absolument que le roman paraisse pour l'automne, pour septembre, pour l'anniversaire des attentats du 11 septembre, parce que mon roman commence avec...
À ce moment-là. Alors, tu sais quoi, Mario, on va faire une petite pause musicale puis on revient tout de suite après ça.
D'accord.
Alors, ça s'appelle « Avec pas de casque », on chante « Mon dos n'est pas une chaise ».
Chaise, pourquoi tu t'assois dessus? De tout ton poids et de tout ton malaise, qui est comme un perdu. Ce n'était que de la glaise, nos bottes ont fait de grands trous, qui se referment comme des pièges derrière. Comme des pièges derrière nous. Mon dos n'est pas une chaise. Toi t'es une antenne brisée. Y'a juste la neige qui rentre dans ton canal. C'est l'hiver à l'année. Tu défends ou tu protèges. D'avoir envie de rien, passer. On aurait jacké sur des blocs de ciment. Nous les remettrons en état.
Alors, nous sommes de nouveau avec Mario Pelletier. Mario, ce que je remarque dans ton livre, c'est que tu pars de tes souvenirs d'enfance. Tu as voulu raconter quelque chose de ton coin de pays. En même temps, l'historien est venu là. Il y a aussi le roman avec le camé et tout ce qu'il apporte de malheur, on peut dire, derrière lui. On rentre à un moment donné avec les échanges que tu fais, les échanges épistolaires qui sont faits entre Loïc et Régis. On rentre aussi dans l'histoire du pays, dans la politique, dans un moment de politique. C'est extraordinaire que tu ne sois pas pris les pieds dedans. Tout est clair. Et franchement, je t'admire pour ça.
Oui, d'ailleurs. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a dit, qui a écrit, « Je ne sais si de nos jours, il existe encore au Québec ou en francophonie des romanciers capables d'une envergure permettant un tel regard et une telle complexité dans l'enchevêtrement du temps et de l'espace d'un récit. »
Écoute, je vais le dire moins bien, mais en tout cas, c'est ce que je pense aussi.
Et écoutez, j'ai eu des commentaires vraiment incroyables jusqu'ici. Sur Babelio en France, Evelyne Leroux dit brillant, captivant, phénoménal. Combien d'heures de réflexion, de recherche pour construire un tel chef-d'œuvre? Le chef-d'œuvre, je ne sais pas, mais les heures de recherche, oui.
Est-ce qu'il y avait déjà à l'intérieur de ta tête, j'ai envie de dire, déjà une culture très intense qui t'évitait d'aller faire toute la recherche énorme, ou il y a quand même eu les deux, ou vraiment beaucoup de recherche pour tout?
En général, je connaissais assez l'histoire pour bien me situer, mais c'est juste des fois des précisions sur les pierres, entre autres. Ma pierre, c'est un camé d'onyx. Je l'ai vraiment vérifié. On favorise l'onyx pour les camés à cause de ses nombreuses multiples couches. On peut graver plus facilement des choses sur les onyx. Alors j'ai pris ce genre de choses. Je me suis documenté sur des choses très précises.
Oui, parce que j'allais dire pourquoi le camé.
Voilà.
Je pense que c'est la question qu'on te pose tous.
c'est la réponse.
C'est ça la réponse.
Et le camé étant une pierre aussi qu'on peut porter soit au cou, soit
en bague aussi, en bague, oui, qui fait ça. Rêver d'ailleurs. Ça dénote une époque, je trouve. Le camé.
Aussi, oui, juste pour moi, oui, c'est ça. Et il y a aussi une chose, c'est que j'en parle aussi dans le roman, c'est que il y a eu beaucoup de pierres maudites, si on peut dire, qui ont porté malheur. Et j'en parle dans un chapitre. Notamment le Florentin, la pierre bleue, le diamant bleu de France, etc. Donc c'est et beaucoup d'autres, plusieurs autres dans l'histoire. Et pour montrer qu'il existe vraiment des pierres qui ont jeté des mauvais, qui ont eu, je sais pas.
Qui ont fait des mauvais sorts. Mais tu nous aurais sorti un rubis ou j'aurais compris. Mais là, un camé, j'ai trouvé ça original. Et ça faisait comme une vision différente et j'avais l'impression de remonter dans le temps.
Oui, mais c'est justement, je voulais justement un camé parce qu'on sait qu'un camé, c'est surtout un art qui vient de d'autrefois. Ça a été en vogue jusqu'au 19e siècle, mais après c'est pas mal disparu, quoi. Mais et surtout, on sait que les grands camés viennent d'Europe, hein, les grands camés. C'était aussi dans l'Antiquité très prisé, le camé. Donc, c'est vraiment, c'est chargé d'histoire, si on peut. Alors, je voulais justement un bijou qui soit, qui ait cette qualité, quoi, d'être...
qui ait cette histoire-là.
Historique, qui ait porté une histoire, une très grande histoire. Et puis, je sais pas, j'ai eu... On m'a dit de toute façon que justement sur Culture Hebdo récemment qu'on ne s'ennuie pas une seconde. Bon, même si le roman fait presque 500 pages.
Mais au départ, quand on a le roman, on dit ouf. Et après, quand on est plongé dedans, on a envie de savoir ce qui se passe. Et puis tous les personnages, parce que moi j'ai parlé que de trois, mais il y a plein d'autres personnages qui sont là, qui sont présents et qui ont toute leur importance et toute leur vie. y compris d'ailleurs, je pensais au fondateur, je me disais si jamais de ce livre-là on en fait un film, ce qui mériterait amplement, on pourrait imaginer le fondateur comme un genre d'Arlésienne, tu sais, dont on parle tout le temps mais qui n'est jamais là.
Eh ben c'est ça, c'est un peu ça. C'est un personnage mystérieux lui-même qui ne parle jamais, c'est un colosse. Et puis on apprend que il est né aux États-Unis, quoi. Donc c'est un il a été élevé par une famille canadienne, quoi, Québec, de Canadiens français établis.
Oui, il a été adopté.
Au 19e siècle, il a été adopté, oui. Et
c'est, ce qui ajoute du mystère à qui il est et d'où il vient.
Et je ne révélerai pas comment on l'a trouvé, ça c'est.
Ne dis rien. Ne dis rien, mais en même temps, on suit l'histoire de ce camé, et quand on rentre dans son histoire, il y a plein de personnages autour qui nous font partir sur des chemins de traverse et en même temps qui font partie de l'histoire, et qui nous font voir les choses autrement que de but en blanc. C'est-à-dire, il y a un camé, oui, il y en a un autre qui est en France, oui, il peut y avoir des guerres des familles, mais quand il y a l'histoire tout autour... De ce qui s'est passé, de comment est né tout ça, qui sont, d'où ils viennent, ça change la donne, ça change le regard du spectateur.
Oui, et puis ces personnages-là, je les écris depuis longtemps, plusieurs existent dans ma tête depuis longtemps, et c'est un monde aussi, que c'est une sorte d'univers, mais il y a aussi, il y a plusieurs niveaux de lecture, je ne sais pas si je l'ai dit dans ce roman, et puis entre autres, la pierre, évidemment, est éminemment symbolique pour moi. Elle représente, parce qu'il y a un côté philosophique et quête, comme Loïc, c'est la quête du sens de la vie, du sens de l'histoire, du sens du malheur qui frappe sa famille avec cette pierre. Cette quête-là, et c'est aussi relié à une espèce de ce que j'appellerais un endiablement du monde dans l'époque actuelle. Et tout ça est relié, parce que c'est pas un hasard si je fais commencer le récit aux attentats du 11 septembre et je le termine à peu près sur l'incendie de Notre-Dame de Paris. Là.
Oui. Et d'ailleurs, ça montre la couverture aussi du livre qui est absolument magnifique.
Oui, merci. C'est moi qui l'ai choisi avec l'éditeur.
Bon choix.
Mais on m'a dit que ça pouvait être une erreur parce qu'on a l'impression que ça donne pas l'impression que c'est que ça donne l'impression que c'est un livre un peu d'occultisme ou des choses comme ça. Alors les gens se méfient.
Du mauvais esprit. Bon, chacun en pense qu'il en veut. Moi, j'ai trouvé la couverture belle.
Bon, mais
et ça
ne
m'a pas changé, ça ne m'a pas sorti de l'histoire en tant que telle.
Justement, parce qu'il y a des gens qui croyaient que c'était... Bon, on ne croyait pas que c'était vraiment un livre de littérature, un livre littéraire, si. Parce que c'est vraiment un livre littéraire,
En tout cas, c'est une passionnante histoire. Voilà, je rajoute mon témoignage à celui des autres, parce qu'il ne nous reste que 2 minutes, malheureusement. Et j'aimerais savoir où on peut le trouver, Mario, ton livre.
Dans toutes les bonnes librairies, Archambault, Renaud-Bray, il est là depuis, il attend le lecteur depuis quelques mois quand même.
D'accord.
Et je pense qu'on va en parler de plus en plus parce que j'ai des entrevues déjà de prévues, 2 autres entrevues, à la radio, et puis je sais qu'il y a d'autres sanctions qui s'en viennent, donc j'espère que on va en parler un peu, parce que pour moi c'est vraiment important ce roman, c'est l'aboutissement de beaucoup de choses et beaucoup de d'espoir,
beaucoup de travail surtout, on va dire,
d'inspiration littéraire. Oui,
mais écoute, en tout cas moi je souhaite le meilleur à ton livre et à toi, Mario, et merci beaucoup pour cette entrevue.
Très plaisir.
Et puis écoute, je souhaite le meilleur, bonne route.
Merci beaucoup,
bonne route à la pierre du diable.
Merci, oui, qu'elle roule bien.
au revoir. On se quitte avec Pauline Croze qui chante Je suis un renard.
Je suis un renard, juste un charognard. Je me suis toujours senti à part. Je suis un volcan, je suis un élan. J'ai mon avenir qui fout le camp. J'attends mon élastique, je suis une boule magique. J'ai dans la bouche un rire sarcastique. Je suis une flamme, je suis une gamme. J'ai plus d'un tour dans mon grand sac. Je suis une couleur et je suis un pleur. Je sais vivre avec mes peurs. Je suis une comptine, je suis une gamine. J'ai des pensées qui tous les jours cheminent. Je suis une vague, je suis une dague. Je suis un corps, je suis un sort. J'ai sous la peau du sang qui s'évapore, qui s'évapore. Tout doucement j'écris au son des rimes et je défierai le temps. Tout doucement j'irai en haut des cimes et je manipulerai le vent. Soyons folles, folkloriques, rien n'est grave, tout est dit. Parce que tout est vrai après les heures grises, après les heures grises. Parce que tout est vrai après les heures grises, après les heures grises. Je suis un renard et comme un bagnard, je me suis toujours senti à part.
Et voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Donc, merci beaucoup, Mario Pelletier. Je répète le nom de ton dernier roman, La pierre de Satan. Allez-y, c'est vraiment passionnant. Certes, le livre est important, mais vous allez lire pratiquement d'une traite. On remercie aussi beaucoup la directrice artistique de ProMusica, Irina Krosnianskaya, pour la saison 2022 de ProMusica. Vous allez voir, ils ont concocté quelque chose d'assez sensationnel. Et si vous ne pouvez pas être dans les salles, eh ben vous pourrez l'écouter version web. C'est aussi une bonne chose. Alors, on remercie aussi Poussa Divani pour sa chronique et pour son choix. Elle fait bien d'aller se balader un petit peu en vacances, puisque quand elle va à cette île, elle rencontre José Leblanc et que ça a été son coup de cœur. Et pour nous aussi, ça a été le nôtre, parce que c'était vraiment très intéressant d'entendre parler de l'hôtel boutique Atticus, A-T-I-Q-U-S-S, à cette île. Voilà, on va présenter comme ça. On est déjà jeudi, Nicolas. Toi, on ne te revoit pas avant la semaine prochaine.
Eh bien non, on ne me revoit pas avant lundi.
On ne te revoit pas avant lundi, mais merci pour ta technique et merci pour les chansons. Demain, on se retrouve avec Maurice Bolduc. Et voilà, c'est son jour. Et nous, on te dit au revoir à la semaine prochaine. Mais à vous, restez demain, parce que demain, il y a encore du monde. Restez, on finit la semaine ensemble. Au revoir, bonne soirée.